Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Richard Decaize.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, vous pouvez nous écouter sur X, vous pouvez nous écouter à la radio. Vous êtes d'ailleurs 1 million à nous écouter chaque semaine. Merci d'être avec nous. Nous commencerons la journée avec Pascal Le Petit, une nouvelle victoire contre les islamistes, puisque c'est lui qui, avec Marion Maréchal, s'est attaqué victorieusement à l'IESH. Grand entretien ensuite avec Hervé Carès. Nous reviendrons sur les faiblesses américaines. Puis nous débattrons avec Dominique Grenèche, grand spécialiste du nucléaire, des réacteurs de 4e génération. Il semblerait qu'Emmanuel Macron ait enfin compris que l'espoir est dans une solution française pour le nucléaire. Et avec Rémi Tell, au contraire, nous analyserons la manière dont les Anglais ont voté la mort en autorisant l'avortement jusqu'à la fin du 9e mois. Nous sommes le 20 mars, et bien en 2003, les États-Unis et le Royaume-Uni passaient à l'offensive en Irak. C'était une opération intitulée « Opération Liberté Irakienne », une vraie leçon de démocratie pour le monde entier et un résultat indéniablement excellent. Nous allons d'ailleurs continuer avec un peu d'actualité et Alexandre de Galzan.
Bonjour chers auditeurs, alors les municipales ça n'arrive qu'une fois tous les 6 ans, alors on continue à ce sujet. Ce dimanche, la République vous laisse devenir des électeurs. Durant toute la journée, les Français et les étrangers, issus des pays membres de l'Union Européenne, pourront se rendre aux urnes pour élire votre prochain maire si le premier tour des municipales n'a pas suffi. Plusieurs villes seront à suivre, commençons par Paris. Un duel au sommet se joue actuellement entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati. Si la candidate de droite part avec 13 points de retard, elle devrait bénéficier d'une partie du report de voix de Pierre-Yves Bournazel, le candidat centriste, et de Sarah Knafo. Et Grégoire est également très handicapé par le maintien de la candidature de Sophia Chikirou et d'un mauvais débat d'entre deux tours, mercredi soir, écoutez plutôt.
L'obsession à me cogner dessus très très fort.
Là, c'est pas ce
et
passe.
De faire de moi
pauvre
le principal.
Non, on dirait une victime.
Vous voyez bien.
Je voudrais qu'on le laisse parler pour le coup, parce que sinon, franchement, vous faites la démonstration que ce qu'il dit est vrai.
Alors, allez-y.
Non, mais laissez-le parler.
Merci.
Alors, lui, quand il nous attaque, c'est normal.
Laissez-le parler.
Quand on répond, c'est anormal.
Laissez-le parler. Voilà.
Donc, la première.
Il n'arrive pas à développer.
Voilà. Je ne suis pas une victime.
Je suis très attentive à ce que vous pouvez vous exprimer. Allez-y, Emmanuel Grégoire.
On va faire une
la première, c'est l'obsession à nous cogner dessus de façon extrêmement brutale.
Voilà. D'ailleurs, en France, il faudra également suivre les résultats de Bordeaux, Nice, Toulon et Marseille pour les grandes villes. Dans les trois derniers cas, la droite nationale espère jouer un très gros coup en ravisant ces villes à la droite molle ou à la gauche.
Sur l'immigration, le Royaume-Uni est en plein dérapage.
Tout à fait, c'est du grand n'importe quoi. Alors, un ressortissant albanais de 39 ans, entré illégalement au Royaume-Uni sous une fausse identité et condamné pour des faits liés à de l'argent criminel, a obtenu le droit de rester sur le territoire britannique après une longue bataille judiciaire. Son cas déjà controversé depuis un an a de nouveau suscité de vives critiques, et à juste raison. De fait, une juridiction avait relevé que l'enfant du ressortissant ne mangerait pas les nuggets disponibles à l'étranger. Dans sa décision finale, le juge Velozo retient que l'enfant a, je cite, une alimentation limitée et que son père ne peut être expulsé sans conséquences disproportionnées.
C'est formidable. Que se passe-t-il au Moyen-Orient?
Au Liban, la situation se fait de plus en plus dramatique avec plus de 1000 morts et 1 million d'habitants déplacés sur un pays de 5 millions, je rappelle, d'habitants. Israël semble commencer à exaspérer de plus en plus sérieusement les pays partenaires comme la Russie, qui accuse l'État hébreu d'avoir sciemment frappé deux journalistes de la chaîne Russia Today, alors que jusqu'ici, Moscou avait essayé de ménager la chèvre et le chou en raison de la très forte minorité russophone en Israël, il se pourrait que les relations se tendent très fortement entre les deux pays. De son côté, l'Union Européenne, elle aussi, se met doucement en rogne en appelant Israël à cesser ses opérations militaires chez son voisin, mais comme souvent avec l'UE, on doute que les avertissements seront suivis d'actes forts.
Et enfin, une bonne nouvelle qui vient de chez vous, Alexandre.
Oui, l'église de Saint-Gau, à Quelaine-Saint-Gau, dans le sud Mayenne, devait être démolie. Mais le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision mardi dernier, apprenait-on hier. En fait, c'est l'association Urgence Patrimoine qui est parvenue à ce résultat qui soulage une bonne partie des Mayennais attachés aux églises de France. De fait, selon le tribunal, il existait un doute sérieux quant à la légalité du permis de construction, ce qui ne dérangeait visiblement pas le maire. Dans le fond, la démolition serait même intrinsèquement problématique sur le plan juridique, à en croire l'avocat de l'association qui désire poursuivre le combat contre la mairie qui, de son côté, ne lâche pas son idée. La mairie a par ailleurs été condamnée à verser la somme symbolique de 800 euros à l'association pour la sauvegarde de l'église. bêtises, bien fait.
Et en sport, alors dites-nous tout.
Et bien, victoire française en biathlon grâce à Lou Jean Monod, qui décroche le gros globe de cristal pour la première fois de sa vie. On les adresse nos félicitations les plus chaleureuses.
Alors, il paraît qu'il va faire beau aujourd'hui.
Eh bien oui, aujourd'hui, temps magnifique sur à peu près tout le pays, avec des températures un petit peu fraîches le matin, en hausse l'après-midi, c'est tout ce qu'on veut. Côté température, nous aurons ce matin 4 degrés à Lille, 5 à Chartres, 7 à Paris, 8 à Cherbourg. Dans l'après-midi, on atteindra 16 degrés sur le Grand Est, 12 en Normandie, 18 en Ile-de-France. Et nous célébrons en ce 20 mars Sainte-Fautine, Saint-Herbert et Saint-Photius. Alors je reviens sur Saint-Herbert, qui est quand même un ermite anglais vivant sur une île au milieu d'un lac, Derwentwater. Grand ami de Saint Cuthbert, et ben ils aimaient bien discuter ensemble de la vie. C'est à peu près tout ce qu'on sait. C'est un peu frustrant. En fait, c'était hyper facile d'être saint à l'époque. Parfois, ça me dépasse.
Il suffisait d'être isolé sur une île. Merci beaucoup.
Et parler à Saint Cuthbert, mais.
Ligne droite.
Alors, Cuthbert de Gazin, qu'allez-vous décrypter aujourd'hui?
Eh bien, je reviens sur le Moyen-Orient et les États-Unis. En fait, le conflit, comme vous l'avez vu, n'en finit pas. Et nous, Françaises et Européens, nous retrouvons à devoir subir les conséquences d'une guerre que nous n'avons pas voulu et pour laquelle personne ne nous a prévenus. Alors, les prix du gazole et de l'essence sont grimpés en flèche à la pompe. Si vous conduisez, impossible que vous ne l'ayez pas ressenti. Pourtant, inquiétez-vous, car ces prochains mois pourraient bien être pires. En effet, on apprenait hier que Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, sonnait l'alerte, je cite, pour l'avenir économique de la zone euro. Notre dépendance aux hydrocarbures est en effet largement liée au Moyen-Orient, et le détroit d'Ormuz étant bloqué, la région particulièrement instable, eh bien, les prix du baril se sont envolés au niveau mondial. Or, un prix du baril plus élevé, c'est moins de consommation, moins d'activité économique et plus d'incertitude sur les investissements. Concrètement, les prévisions de croissance de la zone euro ont donc été sérieusement revues à la baisse. 0,9 points de croissance au lieu d'1,2 sur l'année 2026 et 2,6% d'inflation au lieu d'1,9%, et ce alors que la situation était relativement stabilisée depuis la dernière crise du Covid. Christine Lagarde évoque ainsi un risque de retour de la stagflation, faible croissance mais haute inflation, et tient à vous rassurer que la BCE est désormais préparée et bien équipée. On se demande qui va la croire. De son côté, Donald Trump a réfléchi à une méthode tellement incroyable qu'elle est à peine croyable, lever les sanctions sur le pétrole iranien. Oui, alors c'est bien lui qui a imposé les sanctions, je confirme, et les États-Unis sont toujours en guerre contre l'Iran. Fallait y penser quand même. Donc l'ambition serait d'utiliser, je cite Trump, les barils iraniens contre les Iraniens pour maintenir les prix à un niveau bas alors que nous poursuivons cette campagne militaire. Il faut dire que l'idée ne manque pas d'audace, mais laisse planer de sérieux doutes quant à la possibilité de la mettre en application, ne serait-ce que d'un point de vue diplomatique. Alors peut-être êtes-vous en colère, chers auditeurs, contre ce Donald Trump qui embarque le monde entier dans ses guerres? Eh bien sachez que vous ne devriez pas. Selon le secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, le monde, le Moyen-Orient, les alliés qui nous tournent le dos aujourd'hui en Europe devraient dire une seule chose au président Trump. Merci. Alors, tous ensemble, d'une seule voix, disons merci à Donald Trump pour cette nouvelle crise.
Eh bien, merci beaucoup Alexandre de Galzon.
Ligne droite. Debout les Français.
Et debout les Français, c'est avec Pascal Le Petit. Bonjour Pascal Le Petit.
Bonjour.
Alors, je rappelle, vous êtes fraîchement élu au conseil de Saint-Honoré-les-Bains dans la Nièvre. Bravo.
Voilà. Merci.
Vous avez gagné 2 sièges, vous et l'un de vos colistiers. Et surtout, vous êtes responsable, en fait, d'une plainte envers l'IESH. Et vous avez donc plusieurs affaires judiciaires. Et notamment, vous étiez mis en examen suite à 2 plaintes. Et avec une première plainte a été rejetée. C'est-à-dire, vous aviez accusé l'IESH d'être un repère d'islamistes, ce qui est exact. Et l'IESH vous a attaqué pour diffamation. Et vous avez été relaxé, c'est-à-dire vous avez gagné. En fait, il n'est pas diffamant d'expliquer que l'IESH forme des islamistes.
Tout à fait. Moi, ça a démarré en 2022, donc par une note que j'avais rédigée, voilà, qui était un petit peu, on va dire, un fourre-tout. Hein. C'était une note de synthèse, voilà, qui s'intitulait l'IESH de Château-Chinon, le laboratoire nivernais des frères musulmans. Voilà. Donc ça m'a valu une plainte dans la foulée assez rapidement. Lorsque que j'ai été mis en examen, j'ai prévenu la gendarmerie locale que j'allais en faire un sujet national, et j'en ai fait un sujet national, puisque j'ai invité Marion Maréchal à venir pendant la campagne sur les européennes. On a tourné une vidéo sur place, elle a eu le courage de venir, on a tourné une vidéo sur place dans ce centre de formation, enfin je dirais la tête, finalement la tête de ce réseau européen des frères musulmans. Et cette vidéo nous a valu une deuxième plainte pour moi, une première plainte pour elle. Donc moi, j'ai été mis en examen deux fois en définitive.
La première plainte, donc, pour diffamation, vous avez gagné en première instance. Mais d'une manière surprenante, pour la deuxième plainte, vous avez été condamné, c'est-à-dire en 2024, à cause de cette vidéo, en première instance, alors même que l'IESH venait d'être dissoute par le Conseil d'État, précisément pour des faits d'islamisme, le tribunal a décidé de vous condamner pour avoir, là aussi, attaqué l'Institut européen des sciences humaines, donc le FONE des frères musulmans.
C'est ça, parce que dans la première affaire, en fait, la victoire, la relax obtenue mardi, a été obtenue par exception de nullité, par maître Pichon, que je recommande d'ailleurs, maître Pichon excellent, qui a compris que ce n'est pas la peine d'essayer de convaincre des juges gauchistes et que le mieux, c'est de démonter les procédures, voilà, tout simplement. Et donc, cette procédure est tombée par exception de nullité, donc là, c'était mal ficelé, donc bon, il l'a démontré, ça a été validé par le tribunal. Dans l'affaire qui me lie à Marion Maréchal, cette vidéo, donc on est tombé sur une juge bon, qui est connue pour ses sentences, on va dire, très partisanes. Et donc, on a été condamné en première instance, on a fait appel, et cet appel sera jugé cour d'appel de Lyon début mai.
Alors, c'est une fois plus, c'est un appel qui survient parce que, alors que l'IESH a été dissoute. Et comme vous le dites d'ailleurs dans un entretien au journal du Centre, ce que vous avez dit sur l'IESH, ce n'est que le dixième de ce que le Conseil d'État reproche à l'IESH.
Tout à fait, nous on a été très gentils, on a été, presque amateurs sur cette affaire. Quand on lit le décret de dissolution, donc, qui reprend finalement tous les rapports des services de renseignement nationaux, c'est pas fantaisiste. On se rend compte qu'effectivement, l'IESH était une fourmilière islamiste et que sur certains points, notamment sur les contenus pédagogiques, on va au-delà de la stigmatisation, on va même à la discrimination raciale ou religieuse contre les chrétiens, contre les juifs. Voilà, il y a des appels au meurtre contre les homosexuels. Voilà, on est dans quelque chose quand même de très très fort.
De très fort, et donc le Conseil d'État, l'État français décide que ce prétendu Institut européen des sciences humaines doit être dissous, et néanmoins, donc vous êtes condamné en première instance. Comment a-t-on pu justifier qu'un institut de formation d'imams sous influence des frères musulmans prêchant le meurtre des homosexuels, le racisme et la discrimination envers ceux qui ne sont pas musulmans puisse être défendu par la justice?
Alors bon, c'est toujours le paradoxe assez incroyable en France. C'est vrai qu'en matière de diffamation publique, il y a deux exceptions, l'exception de vérité ou l'exception de bonne foi, mais il y a une temporalité qui fait que nous, ce qu'on a pu dire ou écrire, se situe avant la dissolution. La dissolution, elle date du 3 septembre, et donc la justice française se base sur ce qui s'est passé avant, sans tenir compte de ce qui s'est passé après. Et c'est là qu'on est sur un paradoxe. On pourrait en rire, mais bon, c'est vraiment, vraiment, vraiment problématique, voilà, tout simplement.
Alors, le fait que la justice se passe sur ce qui s'est passé avant, j'entends bien, mais avant, les faits que vous dénonciez sont avérés. C'est-à-dire, même si vous dites, pour reprendre votre expression, que vous ne dénoncez qu'un dixième de ce que le Conseil d'État reproche à l'USH, vous dénonciez de véritables choses. Comment la justice peut-elle justifier qu'elle trouve néanmoins que ces choses-là sont licites, ou en tout cas que le fait de les attaquer serait condamnable?
Alors là, aucune idée. Moi, je pense qu'on a certainement des étiquettes politiques chez les juges. Il y en a certains qui ne cherchent pas du tout à le reconnaître, qui ne veulent pas le reconnaître. Il y a tout un débat sur les frères musulmans. On l'a vu à l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps, où la gauche entière, et je ne parle pas d'extrême gauche, je parle même du Parti socialiste, s'oppose à ce que les frères musulmans soient désignés comme organisation terroriste par le Parlement européen. Donc on voit bien que là, il y a quand même un frein politique.
Alors, ce frein politique, évidemment, il est en partie lié à cet islamo-gauchisme dont on voit les effets permanents en France, aussi à l'orientation de certains juges. Mais on sent, ou en tout cas, on peut le deviner, que dans la décision qui vous a visé, Marion Maréchal et vous-même, c'est aussi, d'une certaine manière, votre parcours politique. Vous avez été référent pour Debout la France. Vous avez ensuite été référent pour... référent pour Identité et Liberté. Et pensez-vous que le fait que ce soit un citoyen de droite et d'une droite assumée qui porte plainte puisse jouer sur la manière dont la justice reçoit la plainte et l'instruit ?
Oui, je le pense. Il y a un a priori fortement négatif et on le voit aussi à travers la presse locale. Le titre du journal du Centre, la diffamation n'a pas été retenue pour vice de forme. Et oui, bien sûr, on arrive devant le tribunal. Pour certains juges, on est déjà coupable, évidemment.
Alors, et comment la population locale de Saint-Honoré-les-Bains juge votre combat ?
Bah, je retrouve les deux composantes habituelles. C'est-à-dire que moi, j'ai mené une liste pour les municipales qui a fait quasiment 30%. Je pense que je retrouve dedans des gens qui sont très contents du combat que j'ai pu mener à Château-Chinon. Et puis, quand je vais boire un café dans la localité d'à côté, je tombe sur des LFistes qui me regardent de travers. Voilà. Donc, on va trouver les deux composantes. Mais malgré tout, dans la Nièvre, ce centre de formation islamiste qui existe depuis 1991, voulu par François Mitterrand, il alimentait un débat local qui était quand même assez amusant. Enfin, moi ça m'a toujours interpellé. C'est-à-dire que personne n'y avait mis les pieds, mais tout le monde avait son avis sur le sujet. Alors, on parlait de souterrain, on parlait de centre d'entraînement, de tir, etc. Moi, j'ai voulu aller voir, tout simplement. J'ai voulu lever le doute. Je m'y suis rendu, j'ai rédigé cette note, j'y suis retourné avec Marion Maréchal, j'y suis retourné avec Jordan Florentin de Frontières aussi. Je deviens un habitué des lieux, mais j'ai voulu lever ce doute et comprendre. Et je me rends compte qu'en comprenant et en éclairant, on emporte avec soi une partie de la population, que j'estimerais à une bonne moitié, un peu plus, un fort capital sympathie. Et puis en même temps, il y en a d'autres qui freinent, toujours pareil. Hein.
Alors, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Lepetit, donc, qui a été mis en cause par l'Institut européen des sciences humaines, qui en fait forme des imams et qui est sous influence islamiste en France. Tout à l'heure, à 7h25, nous recevrons Hervé Carès pour parler d'une autre partie du monde, mais là aussi où l'islam joue son rôle, puisque nous parlerons de la guerre contre l'Iran, menée par les Américains et les Israéliens. Hervé Carès, donc, ce centre de formation des imams, voulu par François Mitterrand, vous l'avez rappelé et ensuite laissé à la dérive, on peut le dire, était à Saint-Léger-des-Fougerais, dans la Nièvre. Donc, pourquoi, à votre avis, les musulmans et pourquoi, à votre avis, François Mitterrand, est-il allé nicher un institut comme ça, au cœur de la France profonde, presque sous les radars ?
Alors, c'est la bonne formule, hein, sous les radars, on est dans un endroit très discret, peu connu, peu de gens passent par ces routes éloignées, on est dans des forêts, on est caché derrière les arbres, les voies de communication sont assez rares, pas d'autoroute, pas de gare, donc c'est discret. Et ça permet tout simplement d'œuvrer dans l'ombre, sans trop faire de promotion ou de bruit. Et ça a été alimenté comme ça pendant 30 ans, mais il y avait aussi, je dirais, un chapeautage politique très favorable, hein, notamment à l'époque Nicolas Sarkozy, hein, où les frères musulmans, on leur déroulait le tapis rouge, hein, tout simplement. Hein. Donc, en même temps que les renseignements travaillaient et étaient déjà au courant depuis le début des dérives qu'on a pu relever, d'un seul coup, il y a eu un changement aussi de regard politique de la part de l'État. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, l'IUSH n'avait plus du tout les faveurs du gouvernement et qu'il est tombé, qu'il a été dissous. Mais tout était connu depuis longtemps, voilà.
Alors, l'IESH conteste évidemment sa dissolution devant le Conseil d'État, exactement comme la Jeune Garde. À votre avis, l'IESH a-t-il une chance de pouvoir se reformer ?
Alors moi, à mon avis, non. J'espère avoir raison. Voilà, ce serait vraiment une décision, je dirais, politique catastrophique que de leur accorder le bénéfice de leur procédure. En fait, il y a une vision aujourd'hui européenne, une prise de conscience dans tous les pays européens sur la stratégie des frères musulmans, hein, qui, je le rappelle quand même, cherche à instaurer la charia à la place de la République en Europe et partout dans le monde d'ailleurs. Donc je pense que cette stratégie habile, hein, d'infiltration, pas violente, mais habile, est maintenant connue. Et donc j'espère vraiment que le Conseil d'État va valider cette dissolution, évidemment.
Et si jamais le Conseil d'État valide cette dissolution, donc vous serez quand même rejugé, puisque donc vous avez formé appel, et c'est en mai 2026 la justice va se reprononcer sur le fait que vous ayez dénoncé l'IESH, qui entre-temps a été dissous. Croyez-vous que là aussi la justice va aller au bout de sa logique bizarre, puisque donc je suppose que en première instance, si vous avez été condamné, c'est que le juge n'avait rien trouvé à reprocher à l'IESH et avait trouvé que tout ce que vous disiez de mauvais contre l'IESH était de l'ordre de la diffamation ou du mensonge. Et donc là, maintenant que le Conseil d'État a expliqué dans un premier temps, effectivement, que l'IESH valorisait une forme de racisme, que l'IESH valorisait une forme de discrimination en faveur des musulmans contre toutes les autres religions et ceux qui n'en ont pas, que l'IESH valorisait une discrimination contre les homosexuels, pensez-vous que le juge, d'ailleurs serez-vous jugé par le même juge, aura le même regard sur les faits qui vous sont reprochés ?
Alors, je l'espère pas. Alors, c'est pas le même juge. C'était une juge, notoire en la matière, qui a pris sa retraite. On lui souhaite une bonne retraite. Voilà. Donc, ce sera non une cour d'appel. C'est en général plus sérieux. Et effectivement, cette juge a complètement occulté la dissolution de l'IESH, hein, pour les raisons qui figurent dans le décret. Intéressant à lire. Non, elle a fait comme si ça n'existait pas. Donc, on était les méchants et l'IESH était les gentils. La cour d'appel sera plus sérieuse et, à mon avis, tiendra compte de tous ces paramètres, heureusement.
Quand vous êtes à Saint-Honoré-les-Bains, et maintenant vous êtes élu au conseil municipal de Saint-Honoré-les-Bains, c'était un combat électoral que vous meniez aussi aux dernières municipales. Quelles seront les premières mesures pour lesquelles vous allez mettre en place ou essayer de les mettre en place contre le maire actuel ?
Alors bon, moi, c'est un petit village thermal. Hein. Il n'y a pas vraiment de sujet politique. Je me bats quand même contre certains éléments, certaines dérives. J'essaye de donner à ce village, qui a un côté très 19e siècle, voilà, village thermal, de lui redonner un peu de sa superbe. Donc je suis plutôt sur l'esthétique, la préservation du patrimoine, voilà, des choses quand même qui me tiennent à cœur, la beauté et l'histoire et la culture. Voilà, je dirais même l'identité de ce village. Donc ça, c'est des choses que je vais préserver. Je vais arrêter le massacre des monuments qu'on détruit. J'écoutais ce que vous disiez aux informations juste avant à propos d'Urgence Patrimoine. Voilà, c'est des organismes que je connais et avec lesquels je travaillerai.
Bon, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Pascal Le Petit, dans ce combat donc, que vous menez toujours avec Marion Maréchal. Vous êtes toujours référent Identité-Liberté. Une dernière question en quelques secondes. C'est vous étiez une liste assimilée divers droites, une liste sans étiquette, une liste labellisée extrême droite par le ministère de l'Intérieur ?
Non, alors j'ai réussi à arracher le côté sans étiquette. Voilà, j'ai préféré parce que c'était un peu compliqué, dans ces villages nivernais, la politique a du mal à s'imposer dans les villages, en fait. Mais bon, moi, je suis très identifié, Marion Maréchal et Identité Liberté, évidemment. Le journal du Centre ne parle de moi qu'à chaque fois en mettant entre parenthèses extrême droite. Donc voilà, ce label, enfin, je dirais presque cette médaille, puisque finalement, à force, ça devient risible et ça me dérange pas du tout. Bon, elle m'est collée au veston et puis tout le monde le sait.
Eh bien, voilà, finalement, ce label infamant finit par être beaucoup plus honnête que tout le reste. Merci beaucoup, Pascal Le Petit, et bon courage pour votre prochaine étape judiciaire. Évidemment, vous viendrez nous en parler.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Il est 7h24, bienvenue sur Ligne Droite, ou plutôt j'espère que vous êtes déjà là. Et nous allons recevoir tout de suite Hervé Carès, ancien militaire et spécialiste de la chose, de la gestion de crise, pour parler de l'Iran, des États-Unis et d'Israël.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Bonjour Hervé Carès.
Bonjour, Richard.
Voilà, je rappelle donc que vous êtes un ancien militaire, vous faisiez partie de l'état-major de l'armée de terre et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, vous êtes expert en gestion de crise et vous avez, depuis plusieurs années, sur la géopolitique, un regard différent de ce qu'on nous raconte sur BFM TV. Comment jugez-vous aujourd'hui la manière dont Israël et les États-Unis mènent la guerre contre l'Iran?
Alors, d'abord, je pense que chaque pays a une stratégie dans cette guerre contre l'Iran, et notamment l'Iran, hein, et qui s'était longuement préparé à cet affrontement, quasiment depuis la naissance de la République islamique, hein, avec les premières tensions avec les États-Unis, depuis 1979 et notamment 1980. Alors, on peut considérer que Israël, dans cet affrontement, a une stratégie qui est très cohérente, hein, puisque historiquement, depuis la fondation de l'État d'Israël, l'État d'Israël poursuit trois objectifs stratégiques: la sécurité de ses citoyens et de ses frontières, le continuum territorial et la profondeur stratégique. Dans ces trois objectifs stratégiques, la sécurité de ses citoyens, eh bien, depuis on va dire à peu près une quarantaine d'années, depuis d'ailleurs la naissance de la République islamique d'Iran, il y a cet affrontement quasiment existentiel, où d'abord par proxy et ensuite plus directement depuis ces derniers mois, entre Israël et cet État, et avec une volonté quasiment mutuelle d'aboutir à la disparition de l'un de ces États. Alors, évidemment, Israël, c'est la disparition, le démantèlement de l'Iran, et l'Iran, c'est la disparition de l'État sioniste, comme il le qualifie, d'Israël. Donc, il y a une cohérence dans cet affrontement qui est quasiment un affrontement existentiel. Concernant les États-Unis, par contre, on peut s'interroger de la manière dont ils sont rentrés dans cette guerre, puisque sur un plan historique et plus large, on peut concevoir qu'il y avait un intérêt géopolitique à affaiblir l'Iran et peut-être le désolidariser de cette nouvelle structure économique que sont les BRICS, mais on peut être quand même assez étonné de la manière dont les Américains poursuivent cet affrontement avec des objectifs initiaux et immédiats qui sont assez confus et exprimés de manière erratique par l'administration Trump. Ensuite, concernant la République islamique d'Iran, il y a également une vraie cohérence sur le plan stratégique, puisque il s'était préparé à un affrontement qui est considéré par les Iraniens comme existentiel. Et évidemment, cette stratégie qu'ils mettent en œuvre, qui est une stratégie asymétrique, mais également qui se nourrit également d'éléments de guerre hybride, notamment sur le plan économique, est tout à fait cohérente avec les moyens qu'ils ont développés pour résister à cette agression israélienne et américaine conjointe, avec un objectif. Évidemment, ils ne pensent pas gagner la guerre, mais ils sont en mesure, de leur point de vue, on peut le constater, de ne pas la perdre.
Alors, ne pas perdre la guerre, c'est aussi d'une certaine manière faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de pays qui soient concernés par cette guerre. On pourrait considérer effectivement qu'il y a cet affrontement existentiel entre l'Israël et l'Iran, que les États-Unis sont le filet d'alliés d'Israël, quoi qu'il en coûte. Mais là, maintenant, ce sont les champs de pétrole du Qatar et de l'Arabie Saoudite qui sont en train de flamber. Ce sont les terminaux pétroliers et gaziers qui sont attaqués. C'est toute l'économie, en fait, du pétrole mondial qui est en train d'être mise à mal avec une flambée des prix. On a l'impression que Israël l'avait peut-être anticipé et s'en moque. On sait que l'Iran avait rapidement expliqué que tous ceux qui soutiendraient cette guerre, en fait, seraient les victimes collatérales désignées de leur riposte. On a l'impression, en revanche, que les États-Unis n'avaient pas imaginé, et Donald Trump le disait encore, qu'il avait été très surpris par la manière que personne ne s'attendait à ce que l'Iran attaque les champs pétroliers et les terminaux gaziers des autres pays. On a l'impression que les États-Unis n'avaient pas vraiment anticipé la riposte de l'Iran.
Alors, je pense que le pouvoir politique, et notamment, je pense à Donald Trump, c'est pas qu'il n'a pas anticipé, mais je pense qu'ils n'ont pas écouté, en fait, leur conseiller militaire et très probablement le chef d'état-major des armées américains. Pourquoi? Parce que, en fait, au plan stratégique, avant de lancer ce type d'attaque, alors il faut imaginer d'abord que des plans stratégiques pour intervenir en Iran existent certainement au sein du Pentagone depuis l'avènement de la République islamique d'Iran. Donc, c'est en fait presque une action régulière et commune des états-majors de ce niveau-là de préparer des plans, ce qu'on appelle la planification froide, ensuite de les mettre à jour ou de les activer lorsqu'il y a une situation géopolitique qui nécessite la mise en œuvre de ces plans. Alors, dès que l'on parle de planification stratégique, en fait, le point de départ de toute planification stratégique, c'est l'identification des centres de gravité adverses ou alors des centres de gravité qui peuvent être partagés. Alors, un centre de gravité, c'est un centre de puissance ou de pouvoir d'où l'adversaire va tirer sa puissance. Il est évident que les militaires américains avaient bien sûr identifié ce centre de gravité d'intérêt mondial qu'est le détroit d'Ormuz depuis le début et depuis, on va dire, le début des opérations de planification qu'ils ont menées dans cette zone. Alors, ce centre de gravité d'intérêt mondial, actuellement, quand je dis d'intérêt mondial, c'est au plan économique hein, et surtout énergétique, on peut le constater depuis ces dernières semaines. Actuellement, ce sont les Iraniens qui le maîtrisent et qui le contrôlent, puisqu'ils ont la capacité à laisser passer les navires qu'ils ont décidé de laisser passer. Et tant que les Iraniens auront la maîtrise de ce détroit, on peut considérer qu'ils ont l'avantage. D'ailleurs, on peut considérer qu'ils ont l'avantage stratégique tant qu'ils maîtrisent ce détroit. C'est pour cela que, en fait, d'une manière un petit peu hystérique, hein, ces derniers jours, on voit le président Trump qui se focalise sur la maîtrise et la conquête de ce point névralgique dans ce conflit. Ensuite, deuxième élément, quand on parle de centre de gravité, il y a un centre de gravité que l'on peut considérer comme étant le maillon faible de la coalition. Alors, ce n'est pas un maillon qui est impliqué dans la coalition, mais qui est d'une certaine manière l'otage de cette coalition. Ce sont les pays du Golfe, les pays arabes du Golfe. Et on voit très clairement que ce centre de gravité avait été très très bien identifié par les Iraniens, puisque c'est une des focales des opérations de frappe qu'ils conduisent depuis les dernières semaines.
Alors, et effectivement, donc tous les pays qui avaient refusé d'être des belligérants, qui étaient réticents à l'idée de prêter leur sol aux États-Unis, enfin pas les États-Unis y étaient déjà avec parmi les bases militaires à l'étranger les plus importantes, mais voilà, il y avait une réticence à ce que les avions y décollent, à ce que la coordination des opérations se fasse chez eux, et néanmoins effectivement l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, donc sont les victimes des frappes iraniennes. Le narratif qui est en ce moment en place est de dire oui, bien sûr, on les attaque, mais nous, on va riposter. Et les États-Unis ont bombardé des terminaux pétroliers iraniens. Mais surtout, et c'est Israël qui le dit, Benjamin Netanyahou encore hier, c'est fait, on a détruit évidemment toutes les possibilités nucléaires de l'Iran, on a détruit en fait leur capacité à produire de nouveaux missiles balistiques, et donc les Iraniens sont en train de tirer leurs dernières munitions.
Oui, alors j'aime bien citer le président Obama qui en 2014 avait dit devant les cadets de West Point à l'occasion d'une conférence, ce n'est pas parce qu'on a le meilleur marteau du monde que l'on doit voir chaque problème comme un clou. Et c'est exactement ça. Puisqu'en fait, on est face à une coalition israélo-américaine qui a une capacité de frappe quasiment inégalée au plan mondial. Mais on constate que depuis quasiment 21 jours, je crois qu'on en est au 21e jour de guerre, eh bien, l'Iran a encore la capacité à frapper les objectifs qu'elle considère comme étant stratégiques pour elle, c'est-à-dire Israël et les pays du Golfe et les intérêts américains sur les pays du Golfe. Cela veut dire que, comme on est dans un contexte de guerre asymétrique, la coalition frappe des objectifs, mais des objectifs qui, en fait, n'obère pas la capacité de riposte des Iraniens. C'est que les Iraniens ont mis en place un système stratégique qui leur permet d'être résilients, de masquer et d'abriter tous leurs éléments balistiques et également à base de drones, mais également d'avoir, ce qui leur a permis de décentraliser leur chaîne de commandement, ce qui permet, en ayant une chaîne de commandement centrale, que ce soit sur le plan politique et sur le plan militaire, qui a été quand même frappée très durement et dès les premiers jours par la coalition, de continuer à riposter et de manière assez efficace. Puisque les bases américaines sont vraiment en difficulté dans les pays du Golfe, à tel point que dernièrement, sur l'aéroport de la capitale saoudienne, les Américains ont perdu, cinq avions ravitailleurs ont été endommagés par des frappes iraniennes. Et quand on parle d'avions ravitailleurs, quand on voit les photos, on voit que ces avions sont très, très endommagés et ne pourront pas être réparés. Et les avions ravitailleurs, dans ce contexte de frappe aérienne, c'est un élément crucial de la stratégie aérienne, aussi bien pour les Israéliens que pour les Américains. Donc, on a une capacité de riposte iranienne qui n'est pas amenuisée. Et bien au contraire, puisque dernièrement, après avoir constater une baisse de l'activité iranienne sur le plan des drones, des missiles balistiques, on constate une recrudescence des attaques par missiles balistiques et par drones, aussi bien sur les pays du Golfe que sur le territoire de l'État hébreu.
Alors, on la constate, mais ça pose tout de suite une question. Nous l'évoquions hier à l'antenne de Ligne Droite. Comment fait-on pour savoir ce qui se passe ? Il y a un blocus des images. Les agences satellitaires américaines mettent désormais 14 jours à livrer leurs images. Les Israéliens interdisent qu'on photographie. Les Iraniens interdisent qu'on photographie. Donc on se retrouve, à vous comme moi, à essayer de comprendre ce qui se passe sans avoir véritablement les images qui permettent. Mais vous nous dites, au contraire, on peut voir la manière dont les avions ont été transporteurs de carburant, les avions ravitailleurs ont été endommagés. Comment peut-on aujourd'hui se renseigner sur cette guerre ?
En fait, c'est très difficile, puisque évidemment, on est confronté à une censure de guerre, mais il y a toujours des informations qui filtrent. Et puis également, derrière les informations qui sont données, les informations officielles, il y a toujours de la méta-information à aller chercher. On a pu constater pendant plusieurs semaines que le Premier ministre israélien était invisible d'une certaine manière, d'où de nombreuses infox à base de vidéos faites par intelligence artificielle. Donc, d'une certaine manière, même si on ne pouvait pas croire au fait qu'il ait été éliminé ou blessé, on pouvait imaginer qu'il était dans un lieu protégé et tenu secret. Ça, d'une certaine manière, cela veut dire que les Israéliens prennent en considération la menace iranienne de cibler les responsables israéliens de la même manière que eux ont ciblé et éliminé certains de leurs responsables. Donc cela démontre d'une certaine manière que les frappes iraniennes, notamment les frappes balistiques, ont une efficacité qui est reconnue par les Israéliens.
Alors, effectivement, on voit ça. Revenons un tout petit peu sur le détroit d'Ormuz. Donc, vous nous disiez que les Iraniens en ont la maîtrise stratégique. Dans les faits, il y a encore des bateaux qui circulent avec l'accord des Iraniens. Il y a des missiles qui sont envoyés. La France est d'ailleurs, avec ses rafales, en train de détruire ses missiles et ses drones. C'est-à-dire, la France a décidé d'avoir une posture défensive. C'est-à-dire, on sécurise la liberté des mers, mais on n'attaque pas le sol iranien. Et on sent qu'il y a là aussi deux manières de présenter la chose. Soit on est focalisé sur la hausse du pétrole, la crainte des armateurs, la crainte de ceux qui naviguent, le fait qu'il y a peut-être des mines et des drones sous-marins qui font en sorte que le détroit d'Ormuz est devenu dangereux, et de l'autre côté, le fait que, pour ce qui est de la maîtrise des airs, la France et d'autres pays ont l'air de faire un travail remarquable pour contrer les menaces iraniennes et les menaces des proxys iraniens.
Ouais, alors d'abord, la France applique les accords de défense qu'elle a passés avec les Émirats arabes unis, donc elle est dans son rôle, hein, sinon elle perdrait en crédibilité. Dernièrement, apparemment, il y aurait une pénurie de missiles Mika, puisque les Rafales ont utilisé les missiles Mika pour intercepter les drones qui étaient lancés sur le territoire des Émirats Arabes Unis. Donc on est vraiment dans cette posture de défense. Il y a plusieurs champs dans cette guerre, en fait. Mais la stratégie, pour en revenir à ce que je disais, c'est que la stratégie des Iraniens est très cohérente et très opérante, puisqu'ils ont identifié très clairement les centres de gravité majeurs de cette guerre, c'est-à-dire, un, le détroit d'Ormuz, et deux, les pays du Golfe. Et à partir de là, ils frappent de manière indirecte et directe des intérêts américains, des intérêts américains aussi bien militaires qu'économiques, que ce soit sur le plan énergétique ou même sur le plan de l'industrie numérique, notamment avec les data centers. Et par effet de rebond, ils ont un impact sur toute l'économie mondiale, ce qui devrait à terme, dans leur esprit, dans l'esprit des stratèges iraniens, amener la communauté internationale, notamment par le biais de l'ONU, à réagir pour que le conflit cesse et que eux restent dans leur posture défensive et en sortant d'une certaine manière au plan stratégique vainqueur, puisqu'ils n'auront pas été vaincus, ils n'auront pas perdu cette guerre, ils ont réussi à résister à une agression conjointe de puissances, de deux grandes puissances, une régionale et une mondiale, que sont Israël et les États-Unis.
Alors, voilà, c'est leur objectif. J'ai le plaisir de recevoir Hervé Carès, ancien militaire et expert en gestion de crise, pour nous parler de cette guerre américano-israélo-iranienne. On voit bien que les Iraniens, évidemment, ne sont pas capables de résister aux assauts américains, mais qu'ils ont mis en place, eux aussi, une riposte intelligente par rapport au champ de bataille tel qu'il se décrit. Cette résilience iranienne, cette riposte iranienne, évidemment, elle n'est pas nouvelle. Vous nous l'avez expliqué, ils ont dispersé leur capacité de frappe sur tout le territoire. L'un des intervenants de cette antenne expliquait que l'ensemble de la côte iranienne était truffée de caches qui permettent d'avoir une action maritime, là aussi, très morcelée et sans qu'on puisse véritablement frapper le port unique d'où partiraient toutes les opérations. À votre avis, combien de temps les Iraniens peuvent-ils tenir dans cette guerre asymétrique ?
Alors, d'abord, je pense qu'un de leurs objectifs, c'est de tenir le plus longtemps possible, ce qui explique aussi, en partie, à mon avis, la baisse des attaques pendant plusieurs semaines d'utilisation de leurs missiles balistiques, le niveau d'utilisation de leurs missiles balistiques et également des drones. Leur but, c'est vraiment de durer, parce que plus ils durent, plus ils mettent en difficulté les pays de la coalition, et notamment les États-Unis, puisque les États-Unis ont un enjeu majeur sur le plan de la politique intérieure avec les mi-termes qui vont arriver en novembre, et surtout le président Trump est confronté au caractère erratique de sa communication, parce qu'en fait, comme la stratégie immédiate dans cette guerre n'a pas été bien définie, a été surtout imposée d'une certaine manière par les objectifs stratégiques israéliens, qui eux sont très très clairs et très cohérents, eh bien on a assisté à une succession de déclarations plus ou moins extravagantes et incohérentes les unes que les autres, puisque comme le disait Victor Hugo, la forme c'est le fond qui ressort, et on voit bien qu'il y avait une forme d'errement stratégique, d'impasse et de surprise par rapport à la résistance iranienne. Donc très clairement, les Iraniens, ils ont pour objectif de tenir le plus longtemps possible. J'avais estimé, puisque j'avais fait une étude très très rapide des centres de gravité, des objectifs stratégiques de chaque belligérant, et puis également des critères de succès, qui sont ces trois éléments sont les bases de toute planification militaire. J'avais estimé personnellement que si déjà les Iraniens réussissaient à tenir environ 4 semaines, c'était déjà une grande victoire pour eux. Hein, et vous voyez que là, on est déjà à 3 semaines, quasiment. Oui, on est à 3 semaines. Et donc, déjà, s'ils arrivent à résister encore une semaine supplémentaire, ça commencera à être une victoire, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan stratégique. Parce que tout l'outil militaire iranien, en fait, a été construit de manière à ne pas être trop sensible et trop vulnérable aux types d'attaques qui sont pratiquées par, par les Israéliens et puis les Américains, c'est-à-dire toutes ces frappes, puisque leur outil, comme vous l'avez dit, est basé sur une multitude de petits moyens qui sont des moyens peu onéreux, mais qu'ils ont multipliés, puis également des moyens plus sophistiqués qui sont extrêmement protégés, notamment via toute la géographie du territoire iranien et toutes les capacités que les Iraniens ont à protéger ces moyens-là dans les montagnes, avec des tunnels, et ainsi de suite. Eh bien, cette mise en place de ces moyens aussi bien symétriques, nombreux et plus sophistiqués et bien protégés, conduisent les Américains et les Israéliens à avoir, comme je l'ai dit en citant le président Obama, à utiliser un marteau, mais qui un marteau qui maintenant a du mal à trouver des clous à sa taille, en fait.
Et ils ont du mal à trouver des clous à leur taille, et néanmoins, voilà, par exemple, le président Trump explique qu'il est prêt à détruire les champs pétroliers iraniens, c'est-à-dire, tactiquement, on voit que d'un côté, les Israéliens continuent leur frappe d'assassinat ciblé, donc de décapitation de tout l'appareil d'État, et de l'autre, les Américains sont en train de dire, bah, on est capable de vous ruiner absolument, parce que évidemment, si on détruit les champs pétroliers, l'Iran n'a plus aucune ressource. Donc malgré tout, on sent là aussi un basculement dans la manière de mener la guerre.
Oui, mais pour les Israéliens et les Iraniens, ce conflit est un conflit existentiel, et surtout pour les Iraniens en ce moment. D'abord, le fait que la coalition commence à frapper des objectifs économiques ou énergétiques, c'est le signe d'un échec sur le plan de la stratégie aérienne vis-à-vis des objectifs militaires. Et le gouvernement iranien, l'État iranien, face à ces attaques, si elles continuent, hein, vis-à-vis de leurs intérêts vitaux, vont faire exactement la même chose sur les pays du Golfe et également sur Israël. Puisque jusqu'à présent, ce que l'on peut remarquer depuis le début, c'est que les Iraniens sont plutôt en réponse qu'en attaque directe. C'est qu'en général, lorsque un élément hors du champ militaire est frappé par l'aviation israélienne ou américaine, comme une usine de désalinisation, un dépôt pétrolier, une raffinerie, ils vont, pas en riposte, cibler de la même manière un intérêt comparable sur Israël ou sur un des pays du Golfe. Donc là, c'est directement une escalade, et sachant, comme je l'ai dit, c'est que les pays du Golfe sont vraiment le ventre mou de cette guerre, et c'est un ventre mou qui est très intéressant sur le plan technique pour les Iraniens, parce qu'en fait, ils sont à portée, ce n'est pas très loin. Donc la plupart de leurs vecteurs, que ce soit les drones ou les missiles balistiques de moyenne portée, peuvent atteindre ces pays, et surtout la défense anti-aérienne de ces pays est beaucoup moins efficace et moins dense que celle qu'ils peuvent trouver sur Israël.
Donc effectivement, on voit bien que dans cette guerre-là, le fait de frapper les intérêts économiques iraniens et avec les menaces que Donald Trump a proférées est à mettre en balance avec la manière dont justement les mêmes intérêts économiques de l'ensemble de la région pourraient être eux aussi touchés et gravement touchés. En une petite minute, pensez-vous que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar commencent à pencher en faveur d'un autre type de résolution du conflit?
C'est-à-dire, vous parlez...
Est-ce que d'un point de vue diplomatique, il y a des tractations pour demander aux États-Unis, à Israël, de changer le cours du conflit?
Alors, il est possible qu'il y ait des tractations depuis le début, quand même, via l'intermédiation notamment des Russes, et peut-être des Chinois, puisqu'il y a environ un peu plus d'une semaine, les Américains et les Israéliens ont fait appel, un, aux Russes et deux, aux Chinois, pour essayer de faire une intermédiation. Alors c'est un petit peu surprenant, puisque avec l'élimination de la Rijani dernièrement, les Israéliens ont éliminé un négociateur potentiel qui avait l'habitude de négocier avec les Occidentaux, ce qui fait que cette sortie négociée du conflit devient de plus en plus difficile. Mais je pense que les Américains y pensent, quels que soient les moyens qu'ils sont en train de mettre en place dans le Golfe pour une éventuelle opération ponctuelle de type aéroterrestre sur certains objectifs qu'ils auraient identifiés. L'ONU devrait également rentrer en jeu, hein. Alors c'est un petit peu surprenant puisque les Américains regardent avec une très grande condescendance cette organisation, mais l'ONU devrait rentrer en jeu notamment pour rappeler la nécessité d'assurer la libre circulation des navires dans l'étroit d'Ormuz. Une des sorties négociées de ce conflit, de cette guerre, cette troisième guerre du Golfe, parce qu'on est bien face à une troisième guerre du Golfe, pourrait passer par l'ONU avec l'intermédiation également de la Chine et de la Russie, qui sont toujours en liaison avec l'État iranien, qui est un partenaire important sur le plan stratégique pour la Russie et la Chine. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que elle est à craindre quand même, c'est que les Américains aillent au bout de leur logique, hein, dans une logique de montée en puissance, et que malgré les risques et malgré les implications que cela pourrait avoir, ils conduisent des opérations terrestres limitées, aéroterrestres limitées sur certains points de la zone du Golfe, ou l'île de Kharg et où certains endroits du détroit d'Ormuz, de manière à sécuriser le détroit d'Ormuz, ou peut-être récupérer des gages territoriaux à échanger dans le cadre d'une négociation. Je pense en particulier à l'île de Kharg, qui est le lieu à partir duquel la majorité des exportations d'hydrocarbures iraniennes se font. Donc il y a vraiment deux options, soit l'option négociée avec une intermédiation par la Chine, la Russie et également sous l'égide de l'ONU, ensuite la recherche d'une prise d'avantage des Américains via la saisie de certains points qui sont considérés comme stratégiques pour eux, c'est-à-dire l'île de Kharg ou alors certains îlots ou certaines îles du détroit d'Ormuz.
Mais avec Arès, je me permets de vous interrompre. D'abord, pour rappeler évidemment que je suis en train de vous recevoir, que vous êtes un expert en gestion de crise, que nous sommes en train de parler de la guerre israélo-américaine, des intérêts qui sont en jeu. Parmi ces intérêts, il y a l'augmentation des coûts, il y a la manière dont les marchés mondiaux sont bouleversés. C'est une excellente transition, pour vous parler justement de l'argent et de la manière dont les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent nous soutenir.
Belle transition, Richard, merci. Chers auditeurs, vous pouvez nous soutenir financièrement. Vous devez même nous soutenir financièrement en nous faisant des dons en ligne sur soutenir.rc.fr ou encore en adressant vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.
Hervé Carès, dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il y a le mot négociation qui revient en permanence, et c'est un mot-clé parce que les États-Unis ont attaqué alors qu'ils étaient en train de négocier avec les Iraniens, et ça fait partie évidemment d'un élément de surprise qui a été mis en avant par Donald Trump, donc qui a assumé le fait d'attaquer alors que les négociations étaient ouvertes, quand bien même ces négociations avaient l'air mal parties, quand bien même il y avait très peu de chances que l'Iran renonce à vouloir détruire Israël. Ça fait quasiment partie de la constitution du régime islamique. Comment le monde entier reçoit-il cette nouvelle capacité des États-Unis à être un po' fourbeau, comme disait le regretté pape François?
Oui, il est clair que la manière dont les États-Unis sont rentrés en guerre peut poser de questions à de nombreux pays dans le monde, et au premier chef peut-être même les Russes, puisque les Russes sont rentrés dans un processus de négociation à l'occasion de cette fin de guerre en Ukraine. Mais c'est un sujet un petit peu différent. Je ne suis pas certain que les Russes soient également très francs dans ce processus de négociation. En tous les cas, il est clair que cela pose question. Et en tous les cas, surtout, cette fin de guerre, il faut bien imaginer que les Iraniens, si jamais ils arrivent vraiment à résister et à ne pas perdre cette guerre, comme je l'ai dit, vont exiger de sérieuses garanties de sécurité par, le, de la part de leurs adversaires actuels, que ce soit Israël et les États-Unis.
Alors, ils vont exiger des garanties de sécurité. On se doute bien la manière dont Israël va les leur garantir. Pour les États-Unis, ce sera un peu différent. Les États-Unis, donc, ont déclenché cette guerre en pleine négociation, ont déclenché cette guerre en avertissant personne, voilà, sinon les Israéliens, et donc ils ont décidé ensemble de mener ces frappes. Et aujourd'hui, les États-Unis expliquent qu'ils sont très surpris que l'OTAN ne soit pas en train de les aider. Alors bon, sachant qu'évidemment, les intérêts de l'OTAN ne sont pas menacés par la guerre israélo-américano-iranienne. Les États-Unis ont l'air de reprocher au monde entier, alors d'une manière un peu amère selon Donald Trump et d'une manière un peu grotesque avec Peter Hegseth, qu'on ne soit pas tous en train de leur dire merci de ravager l'Iran.
Alors d'abord, Israël ne fait rien sans les États-Unis. Israël ne fait rien sans l'appui logistique des États-Unis et l'État d'Israël, qui est en guerre quasiment permanente depuis le 7 octobre, serait en très grande difficulté s'il n'y avait pas une aide financière de la part des États-Unis. Donc Israël ne fait rien sans les États-Unis et cette opération n'aurait pas pu exister sans une vraie coordination, une planification commune, notamment pour les frappes aériennes, entre les États-Unis et Israël. De la même manière que lorsque le président Trump joue les offusqués parce que les Israéliens ont bombardé un terminal gazier iranien, il est évident que cette frappe, elle ne peut pas être passée inaperçue de la coordination globale des opérations aériennes des Américains. Donc le président Trump joue l'effarouché, mais il était au courant de cette frappe. Et d'ailleurs, on peut s'interroger sur le pourquoi de cette frappe, hein, qui est escalatoire et va, d'une certaine manière, on a pu le constater, conduire les Iraniens à faire la même chose sur les États du Golfe. Pourquoi ? Parce que il faut, je pense, chercher à imaginer quelle stratégie pourrait être celle du président Trump pour sortir du guépier dans lequel il est actuellement, dans l'impasse dans laquelle il est actuellement. C'est que soit il arrive à négocier, soit dans une démarche escalatoire, il peut contraindre et amener par effet économique drastique ses alliés de l'OTAN à venir s'impliquer directement dans ce conflit. Parce que lorsque vous dites que l'OTAN n'est pas impliqué, oui, l'OTAN n'est pas impliqué, mais les pays de l'OTAN vont subir très directement les effets économiques de cette guerre. Et notamment lorsque l'on touche à des intérêts gaziers dans la zone, eh bien cela a un effet immédiat et quasiment drastique sur toute l'activité économique des pays européens, et avec un surenchérissement du gaz qui va devenir mortifère si rien n'est fait au plan européen pour trouver des partenaires alternatifs gaziers, ou alors renouer des liens avec la Russie, qui était le partenaire le plus logique et le plus naturel pour le commerce du gaz avec l'Union européenne. Donc, le but de escalatoire de toucher aux intérêts énergétiques pourrait être, du côté américain, de pousser par effet collatéral difficile à supporter les Européens, donc les partenaires de l'OTAN, à s'engager plus avant dans cette guerre.
Alors, parmi ces partenaires, il y a Emmanuel Macron. Avec Mariavec Raffray, cette semaine, nous avons décrit la manière dont la France intervenait en Iran en saluant cette démonstration de puissance française. Et une partie des auditeurs de Radio Courtoisie était très énervée qu'on puisse saluer une décision du président Macron. Effectivement, nous étions nous-mêmes étonnés de paraître approuver une décision d'Emmanuel Macron. Ça ne nous était pas arrivé depuis des années. Mais là, ça paraissait intelligent. La France a montré qu'elle avait des capacités de projection, qu'elle avait des capacités militaires, que l'Angleterre, par exemple, n'a plus, que le Royaume-Uni n'a plus. Comment percevoir cette action française ? Est-ce que c'est une gesticulation utile ? Est-ce qu'au contraire, la manière dont les rafales français sont en train de sécuriser le détroit d'Ormuz est une action intelligente ?
Alors d'abord, l'action française s'inscrit, comme je l'ai dit, dans les accords de défense qui ont été signés, notamment avec les Émirats les Émirats arabes unis.
Et effectivement, ensuite, respecter sa parole est plutôt intelligent, contrairement à ce que font des négociateurs américains.
Exactement. Ensuite, le positionnement du groupe aéronaval français en Méditerranée, dans la zone de Chypre et à proximité du Liban, est plutôt un positionnement qui est adroit sur le plan stratégique et qui amène une certaine souplesse et éventuellement des capacités d'action et de soutien à l'État libanais qui est en très grande difficulté avec l'offensive terrestre israélienne au sud Liban. Et ça correspond un petit peu à ce rôle historique de la France qui est celui de la puissance d'équilibre. Et il est bien dommage que sur d'autres conflits comme celui de l'Ukraine, ce rôle de puissance d'équilibre n'ait pas été préservé. Donc là, je dirais comme vous, hein, que d'une certaine manière, le président Macron a positionné politiquement et militairement de manière très très adroite la France dans cette guerre. Reste que le discours pour l'instant paraît parfois un petit peu illisible, hein, dans la mesure où on parle de posture défensive et ensuite parallèlement je le cite, hein, il parle de protection des navires dans le détroit d'Ormuz et d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz lorsque les opérations sont terminées. Mais lorsque les opérations seront terminées ou que la guerre sera terminée, qu'il y aura eu un cessez-le-feu dans le Golfe Persique, eh bien, quel intérêt il y aura à escorter les navires? Enfin, pour tout ça, on est un petit peu toujours dans le en même temps du président Macron.
Voilà. Donc, pour le moment, c'est intelligent. Pour le moment, l'aviation et la marine française font ce qu'il y a à faire. Vous avez souligné, évidemment, comme le journal La Tribune le rappelait, le fait qu'il y a un problème de munitions. D'ailleurs, c'est un problème qui risque aussi de se poser pour les États-Unis. On sait qu'eux-mêmes ont dépensé énormément de munitions et qu'il y a une certaine attrition. Il est temps d'aborder les deux derniers sujets. D'une part, le régime iranien, d'autre part, la guerre au Liban. Si vous permettez, on terminera par la guerre au Liban. Depuis le début de ce conflit, il y a évidemment plusieurs mouvements dans l'opinion. D'un côté, on est heureux que les Iraniens puissent être libérés du joug islamique, dont on sait à quel point il est rude, à quel point il est haineux, à quel point il est meurtrier. Voilà, des milliers d'Iraniens sont morts depuis 50 ans sous le joug des islamistes, et encore quelques milliers très récemment, à la fin de l'année dernière, au début de cette année. Donc, on a envie, évidemment, que les Iraniens soient libérés. De l'autre côté, le fait de voir les États-Unis patiner une fois de plus dans une de leurs opérations extérieures qui sont annoncées à grand fracas et qui ont l'air de s'enliser, réveille, évidemment, le complexe agréable du petit pousset contre l'ogre et du petit tailleur contre les soldats du roi. Est-ce qu'on peut dire, comme le font certains, que ceux qui ne soutiennent pas totalement les États-Unis et Israël sont forcément du côté des Iraniens, et que ne pas soutenir totalement Israël et les États-Unis, ça veut dire être partisan d'un régime meurtrier et dictatorial?
Ouais, là c'est tout le sujet entre la rationalité et puis l'analyse froide des sujets, et ensuite les opinions et les émotions de chacun, ou les engagements de chacun. Je pense que, comme toute situation géopolitique et de crise, il faut la raisonner en matière d'intérêt, de risque, de bénéfice et parfois d'opportunité. Dans le conflit en Ukraine, on pouvait se poser les questions des intérêts européens, de la manière dont ils étaient défendus et donc de la manière dont ils sont défendus très honnêtement dans cette guerre. Autant il est clair qu'à partir du moment où il y a des effets économiques et notamment énergétiques qui sont patents avec cette troisième guerre du Golfe, le positionnement des Européens sur ce conflit-là doit obéir aux intérêts de l'Europe et notamment aux intérêts de la France et aux accords de défense qu'elle a pu signer avec des pays de la zone. Pour en revenir à ce qui se passe au Liban, comme je vous l'ai dit, en fait, l'État d'Israël, depuis sa création, a trois objectifs stratégiques, la sécurité de ses citoyens, de ses frontières, le continuum territorial et puis la profondeur stratégique. Alors, la sécurité de ses citoyens et de ses frontières ou du territoire, c'est le type de opérations qu'ils ont conduites sur Gaza et puis maintenant contre l'Iran. Le continuum territorial, eh bien, c'est l'annexion du l'annexion continuum territorial, c'est l'annexion de fait de la Cisjordanie par cette politique de colonisation qui est poursuivie. Et la profondeur stratégique, c'est l'annexion également de fait du Golan, de ses contreforts. Et maintenant, cette opération au sud Liban qui a pour but de créer une zone tampon jusqu'au fleuve Litanie et de repousser les forces militaires du Hezbollah. Alors, historiquement, c'est une zone que les Israéliens ont déjà occupée hein, dans les années 80 et qui, justement, avait été mise sous la coupe de l'ONU, sous la responsabilité de l'ONU avec la FINUL. Donc, on est ce conflit... cette opération israélienne au Liban s'inscrit vraiment dans cette notion de profondeur stratégique et de zone tampon.
Alors, ça s'inscrit effectivement dans une logique israélienne qu'on peut comprendre. À côté de ça, voilà, on sait que maintenant, le Hezbollah était censé être au sud Liban, et le Hezbollah était censé être dans certaines banlieues de Beyrouth, mais les Israéliens sont carrément en train de frapper au centre de la capitale. Les habitants du quartier Zokak El Blat ont été visés par deux frappes successives, par exemple, et on est en train, en fait, d'assister à une prétendue élimination du Hezbollah, c'est-à-dire il suffit qu'il y ait potentiellement quelqu'un du Hezbollah dans un immeuble d'habitation pour que tout l'immeuble d'habitation soit réduit en miettes. Et là aussi, peut-on considérer que la volonté de Benjamin Netanyahou de réduire en miettes l'Iran, de faire en sorte de les écraser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'en reste que des cendres, je cite Benjamin Netanyahou parlant de l'Iran, est-il légitime que le Liban soit à ce point-là une victime collatérale de ce conflit, même si le Hezbollah est effectivement d'une part antipatriotique et d'autre part quasiment suicidaire?
Alors d'abord, c'est illégal hein, sur le plan du droit international, tout comme la guerre qui a été déclenchée par les États-Unis et puis Israël contre l'Iran. Ce pauvre Liban, de toute façon, est martyrisé par ses voisins depuis de nombreuses années, hein, que ce soit par la Syrie à une époque et également par Israël. Alors évidemment, ces agresseurs sont aidés en cela par différents groupuscules qui sont agissant au sein du Liban, et notamment le Hezbollah. Le Hezbollah qui a une frange militaire, mais quand même un parti politique assez important également au Liban. Oui, non, on peut pas souscrire à ce type d'agissement de la part de l'État hébreu. Alors, il faut bien comprendre que l'État hébreu, c'est devenu quand même, pour les raisons qu'ils ont, une forme de paranoïa stratégique, hein, comme je vous l'ai dit. Alors, justifié ou pas, c'est toujours pareil. Il faut se mettre à la place des potentats stratégiques, hein, de la même manière que les Russes se sentaient en insécurité avec l'avancée de l'OTAN à leurs frontières. Donc, ça se traduit, cette hyper-agressivité stratégique israélienne, ça se traduit par une insécurité constante au sein du Proche et du Moyen-Orient. Il faut se rappeler qu'il y a quelques mois, ils se sont permis quand même de bombarder le Qatar pour éliminer un responsable du Hamas. Hein, le Qatar, qui est un pays qui, certes, avait des liens avec le Hamas, mais qui est un pays... qui n'avait aucune animosité directe avec Israël. Donc, il y a cette hyper-agressivité de l'État d'Israël et qui s'est accentuée avec l'arrivée de la coalition du Premier ministre Netanyahou au pouvoir, puisque dans cette coalition, il y a au moins deux ministres qui sont très, très impliqués dans des mouvements radicaux et suprémacistes qui, d'une certaine manière, oriente la politique de l'État d'Israël d'une manière assez irrationnelle.
Alors, effectivement, la manière dont le Liban est attaqué et la manière dont Israël a l'air d'expliquer, en tout cas par la voix de certains de ses ministres, que ces attaques vont continuer, que la zone de protection, la zone tampon, le glacis est censé s'étendre. C'est même le quartier du palais présidentiel libanais qui est visé par les Israéliens avec des ordres d'évacuation. Donc on se demande dans quelle mesure les Israéliens s'imaginent que le président du Liban est censé évacuer le lieu du pouvoir libanais pour permettre la poursuite des opérations. On le rappelait ce matin, il y a déjà 1 million de personnes déplacées sur une population de 5 millions, il y a déjà plus de 1000 morts, évidemment des centaines d'enfants. Comment Israël peut-il considérer que la communauté internationale accepte la chose? On sait bien que Gaza a été durement touché, là aussi en rétorsion contre une attaque terroriste qui elle-même a été particulièrement abominable dans ses modalités. Véritablement, Israël peut-il considérer que la profondeur stratégique qu'il réclame justifie l'ensemble des guerres qu'il est en train de mener?
Bah, de toute façon, depuis 1967 et la récupération de la Cisjordanie et de la partie est de Jérusalem, le territoire d'Israël est un territoire en l'état non reconnu dans ses frontières au plan international. Donc Israël, cela fait de nombreuses années que Israël est dans l'illégalité au regard des résolutions de l'ONU qui l'ont condamné. Donc, je pense qu'ils s'en fichent, très honnêtement. Et ils s'en fichent d'autant plus que, comme je l'ai dit, ils ont l'appui des États-Unis, quasiment un appui inconditionnel, hein, même si parfois ils se font réprimander. Alors, ils se font réprimander. Le Premier ministre Netanyahou s'était fortement fait réprimander par le président Trump après le bombardement du Qatar, de la capitale du Qatar, pour éliminer un des dirigeants du Hamas. Il avait d'ailleurs forcé à téléphoner directement aux responsables qatari pour s'excuser.
Depuis le bureau ovale, oui, on se souvient de...
Depuis le bureau ovale, mais tant qu'ils ont ce soutien-là, ce soutien indéfectible, alors sachant que les États-Unis n'ont pas tendance non plus à reconnaître et à s'appuyer énormément sur l'ONU, ils se sentent, entre guillemets, inattaquables. Donc, ils se permettent toutes les actions militaires qu'ils jugent utiles pour leur sécurité.
Revenons à ce qui se passe sur le sol en Iran. Donc, la population est évidemment iranienne victime des frappes qui désignent les différents objectifs militaires et victime des frappes qui essayent de faire en sorte d'éliminer telle ou telle personne du régime. Il y a toujours un doute sur une intervention au sol menée soit par les Israéliens, soit par les Américains. Pensez-vous que dans cette quatrième semaine de conflit qui commence, l'intervention au sol fait partie des options sérieusement envisagées par les belligérants?
Alors d'abord, s'il y a une intervention au sol dans la zone du détroit d'Ormuz, ça sera une intervention exclusivement américaine. Alors ça sera une intervention, si jamais elle a lieu, hein, sur une opération plutôt de type aéroterrestre et de manière assez ponctuelle, soit pour récupérer un gage territorial qui pourrait être monnayé, comme par exemple l'île de Kard, qui est le grand terminal en hydrocarbures pour l'exportation des hydrocarbures iraniens. Alors c'est au fond du Golfe Persique, c'est quand même un objectif assez périlleux. Soit la saisie de quelques îlots ou de la grande île qui est à l'entrée du détroit d'Ormuz, de manière à sécuriser de la manière la plus rationnelle et avec le moins de risques possible le détroit d'Ormuz. En tout cas, c'est une option qui est envisagée dans la mesure où on voit qu'il y a une montée en puissance des moyens terrestres et amphibies américains, que ce soit avec le déplacement de 20 000 soldats américains dans la zone du Golfe par voie aérienne et puis l'arrivée de de deux MEU, c'est-à-dire des Marines Expeditionary Units dans la zone, soit environ à peu près 5000 Marines.
Ok, eh bien, mais, pardon, mon expression est malheureuse. Merci beaucoup Hervé Carès de nous avoir délabyrinthé un peu l'ensemble de ces opérations et j'espère que nous pourrons continuer à en parler, non pas parce que la guerre continue, mais parce que ça nous éclaire véritablement.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, avec Richard de Sèze.
Chers amis, bientôt la chronique de Pascal Pointu et bien sûr aussi celle d'Alexandre de Galzin, mais aussi dans un instant, nous recevons le professeur Dominique Grenèche pour parler du nucléaire français.
Et un petit rappel des titres de l'actualité aussi. Pour les municipales, plusieurs villes seront à suivre. Commençons par Paris. Un duel se joue au sommet, bien sûr, entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati, qui bénéficient de ralliements. Ailleurs en France, il faudra également suivre les résultats de Bordeaux, Nice, Toulon et Marseille pour les grandes villes. Dans les trois derniers cas, la droite nationale espère jouer un très gros coup, en ravissant ces villes à la droite molle ou à la gauche. Et puis au Liban, la situation se fait de plus en plus dramatique, avec plus de 1000 morts et 1 million de déplacés sur 5 millions d'habitants. De son côté, l'Union européenne se met doucement en rogne en appelant Israël à cesser ses opérations militaires chez son voisin. Enfin, en France, l'église de Saint-Gaud dans le sud Mayenne devait être démolie. Mais bonne nouvelle, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Et nous célébrons en ce 20 mars Sainte-Photine, Saint-Herbert et Saint-Photius.
Merci Alexandre.
Ligne droite.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Et nous allons débattre en fait du nucléaire français avec le... Dominique Grenèche, docteur en physique nucléaire, accompagné de Jean-Luc Cerdan. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Alors, vous êtes le spécialiste français des réacteurs de quatrième génération. Alors rappelez-nous brièvement ce que veut dire quatrième génération.
Quatrième génération, ça veut dire que ce sont de nouveaux réacteurs qui sont surgénérateurs, c'est-à-dire plus de matière fissile qui n'en consomment en produisant d'électricité. Voilà. C'est ça que ça veut dire.
Alors, donc, et c'est, cette matière fissile, elle est produite notamment dans les réacteurs de quatrième génération par l'utilisation des déchets nucléaires.
Exactement. Les déchets, c'est l'uranium appauvri. C'est-à-dire que quand on enrichit l'uranium, évidemment, de l'autre côté, on obtient de l'uranium appauvri qui, pour l'instant, ne sert à rien. Et on va utiliser ça comme combustible. C'est-à-dire c'est ça qui va permettre de générer une nouvelle matière fissile qu'on appelle le plutonium, qui va permettre de surgénération. Je prends souvent l'exemple d'une voiture. C'est du carburant artificiel. Et donc, c'est comme une voiture de quatrième génération. Vous prenez une voiture qui consomme 10 litres au 100, donc vous faites 100 km, et à l'arrivée, vous avez votre réservoir, vous avez 12 litres. Voilà, 12 litres d'essence.
c'est formidable. Et en fait, cette masse de combustible potentiel, c'est les réacteurs de quatrième génération qui ont percé technologiquement ce mur du cycle de fermeture du combustible nucléaire.
Fermeture du cycle du combustible. J'aime pas trop cette expression, mais on la voit tous. Fermeture du cycle du combustible, ça veut dire justement, quand même, le combustible, on le décharge aujourd'hui, on en recycle une partie, mais fermeture complète, ça veut dire qu'on va tout extraire l'essence et on va pouvoir le recycler complètement. C'est ça que ça veut dire, fermeture du cycle.
Et ça, c'est une technologie française.
Bien sûr.
Alors, ce qui est
bien sûr, excusez-moi du bien sûr. Mais, oui, c'est purement.
Mais vous avez raison d'être fier. Voilà, c'était Phoenix, c'était Super Phoenix, c'était Astrid, et ce sont tous les projets qui ont été abandonnés. Or, il semblerait que le président Emmanuel Macron ait décidé de revenir, en fait, sur cet abandon des réacteurs de quatrième génération.
Oui, alors, il y a eu un premier séisme, si je puis dire, en 98, quand la gauche était au pouvoir, et qui a complètement arrêté Super Phoenix, qui était le plus beau réacteur. Le plus puissant au monde de quatrième génération déjà. Bon, ils ont arrêté. Bon, ça a commencé à être pris en 2005 grâce à Jacques Chirac. Et puis, il y a eu un programme donc, de développement, une deuxième. Et puis, il y a un deuxième séisme, une réplique, je dirais, où le réacteur Astrid, ce projet de quatrième génération, a été à nouveau arrêté en 2019. Alors, à la surprise générale. Et puis, troisième, et j'espère que c'est la bonne, depuis le dernier conseil de politique nucléaire, cette quatrième génération, on va en construire un réacteur finalement. En 2030.
Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il y a eu le cinquième conseil de politique nucléaire qui s'est tenu, et le président Macron, donc ça s'est tenu le 19 mars, et le président Macron a expliqué qu'on allait relancer cette filière française. Et une fois plus, l'intérêt, c'est qu'on déborde évidemment de déchets nucléaires et qu'avec ces réacteurs de quatrième génération, on peut utiliser ce combustible. Et ce qui fait qu'on a en fait une sécurisation de notre approvisionnement énergétique pour des milliers d'années.
Tout à fait. Alors ça, je l'ai expliqué à M. Macron dans une lettre que j'ai envoyée récemment, il y a 15 jours, pour lui expliquer ce que vous venez d'expliquer en fait. À savoir qu'on a 350 000 tonnes de ce qu'on appelle des déchets nucléaires, c'est-à-dire les fameux uranium appauvri, n'est-ce pas, qui va vous servir de catalyseur pour faire du nouveau combustible. Voilà. Bon, donc ça, c'est la quatrième génération. Ça avait été arrêté, on vient de s'expliquer. Mais, comment dirais-je, excusez-moi.
Je vous en prie.
Donc, cette quatrième génération, il a été décidé à nouveau de la reprendre pour construire un prototype industriel, ce que j'appelle une tête de série, en 2030. Voilà.
Alors, évidemment...
construire à 2030.
C'est une excellente nouvelle. Pour ceux que ça intéresse, vous avez rédigé un livre complet sur la question, Les réacteurs nucléaires surgénérateurs, pourquoi, comment, quand, plaidoyer pour un avenir énergétique propre et durable. Voilà, je le montre à l'écran.
Je l'ai envoyé à Macron, d'ailleurs.
Et voilà, et alors avec un peu de chance, Macron l'a lu, il ne lit pas que des auteurs communistes sud-américains, il lit aussi des auteurs scientifiques français. Voilà, c'est aux éditions PNC France, et ce sera évidemment...
Si je peux me permettre, son chef de cabinet m'a répondu en disant que... Enfin, je ne sais pas s'il l'a lu, hein, Macron, mais en tout cas, c'est exactement ce qui se passe en ce moment, tout ce qui est là-dedans.
Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que donc on a parlé du combustible nucléaire, on a parlé de Superphénix. En fait, la France sait exactement comment mettre en place relativement rapidement cette nouvelle filière nucléaire.
La France était championne du monde, d'accord. Elle a une expérience, un retour d'expérience considérable, parce qu'il ne faut pas croire que ça c'est des rêves de savants fous, ça a été fait. Il y a eu des tas de réacteurs dans le monde et la France était pionnière. Et on a assassiné Superphénix, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, pour des raisons politiques. Donc on sait faire, bien sûr. Non seulement on sait faire, mais on est les meilleurs au monde. Et nous sommes les seuls au monde d'avoir une usine de retraitement déjà. C'est-à-dire qui prend le combustible usé, qui en extrait le plutonium et qui le recycle. On est les seuls au monde.
Effectivement, je crois que les Américains ne savent pas retraiter ce combustible nucléaire, par exemple.
Ils ont su, mais ils ont arrêté aussi. Mais eux, ils ont arrêté pour des raisons politiques aussi, pour la raison de plutonium. Ils ne voulaient pas de plutonium. Ça a été arrêté en 1979 par Jimmy Carter, qui était un farouche opposant au nucléaire, en fait, et qui a voulu arrêter ça. 79, ça fait donc...
Quasiment 47 ans, 50 ans,
voilà, un demi-siècle.
Le début du régime islamique en Iran.
Maintenant, ils sont en train de changer aussi. Ils sont en train de dire, bon, il y a le secrétaire à l'énergie qui est venu en France récemment qui a dit, mais bon sang, mais les Français, vous êtes bons. Hats off, les amis. Chapeau, les Français. Donc, ils vont reprendre. Ils vont rouvrir leur vieille usine parce qu'ils en avaient trois, en fait, des usines de là. Ils ont tout arrêté il y a 50 ans. Et comment dirais-je? Et donc, ils vont les reprendre le retraitement. Ils vont nous suivre. Et moi, on va avoir probablement des gens de la Maison-Blanche prochainement en France qui veulent absolument voir la Hague et qui disent c'est formidable.
Donc la Hague, c'est cette usine de retraitement des déchets.
C'est l'usine de retraitement des déchets.
Quand vous nous dites quelque chose va être lancé en 2030, on a l'impression à la fois que c'est un peu éloigné et en même temps que c'est redoutablement rapide pour de l'industrie nucléaire.
Exactement, mais on est déjà prêt puisqu'on avait commencé quand même à étudier. Alors, on va donc en 2030, ce qui est prévu, c'est d'ici 4-5 ans de faire le design, de faire le projet, puis après on va construire le truc. Voilà, en 2030, c'est donc dans 5 ans. Mais on fait des études depuis 50 ans, donc on connaît le truc, puisqu'on avait Astrid donc qui était pratiquement prêt. Donc il s'agit de reprendre, si vous voulez, en 4-5 ans, l'adaptant un peu. Donc c'est pas trop court.
Ouais, donc on a déjà retour d'expérience, on sait déjà où on va, on n'est pas complètement en phase exploratoire.
Ah non, pas du tout, je vous dis, on a construit des réacteurs, mais on avait ce projet Astrid qui était pratiquement prêt, quoi. Bon, puis on a arrêté en 79 pour des raisons tout à fait politiques encore, c'est administratif, bon, bref.
Jean-Luc Cerdan.
Il n'aura échappé, Bonjour. Il n'aurait échappé à personne qu'en 2027, il y a des élections majeures. Et le point de vigilance qu'il faudra avoir, c'est celui de l'alternance. Et on sait très bien ce que l'alternance a créé et a fait fermer Superphénix. Dominique Grenache l'a rappelé en 98.
Dominique
c'était,
Voynet.
C'était un chantage en fait au vote. Hein, au nombre de voix, c'était entre les deux tours. Même si Jospin l'avait annoncé, eh ben, il s'est retrouvé un petit peu coincé et la feuille de route était tracée. Donc voilà, il faudra faire attention à ce que l'alternance fasse pas rebrousser chemin, les choses étant bien parties. Avant, c'était un plaidoyer pour les réacteurs de quatrième génération sur générateur. Là, on n'est plus dans un plaidoyer. Maintenant, il faut surveiller. Maintenant, on dit, OK, ça a été décidé, surveillons et vérifions que...
Pardon, excuse-moi de t'interrompre.
Bien sûr.
Effectivement, les prochaines élections, mais forcément, ce sera des pro-nucléaires, parce que 80% de la population française, maintenant, est pour le nucléaire. Donc, la prochaine alternance, ça m'étonnerait qu'ils arrêtent le nucléaire. C'est pas possible.
Je ne voudrais pas absolument décevoir vos convictions démocratiques, Monsieur Grenache, mais le fait que la population soit d'accord avec quelque chose n'empêche généralement pas les gouvernants de faire absolument
tout à fait,
le contraire.
Enfin, là, ça
parce que prenons le cas de l'immigration et n'en parlons pas. Mais
tout à fait, Monsieur.
La gauche qui comprend quand même sa branche écologiste est quand même globalement à 67%. Dernier sondage CSA pour le nucléaire.
Oui, oui. Et d'ailleurs, 70% des militants du LR sont pour la fusion des listes avec le Rassemblement National. Mais je ne voudrais pas décevoir ni les auditeurs, ni vos espoirs, ni les miens. On est en passe avec une révolution cérébrale supplémentaire de la part d'Emmanuel Macron de remettre en fait vraiment la France sur la voie d'une industrie nucléaire puissante.
Tout à fait. Depuis 2-3 ans, même un peu plus, il y a un virage sur l'opinion publique mondiale, je dis bien mondiale, qui est en faveur du nucléaire. Donc je ne vois pas comme argument électoral, je suis d'accord que le mieux, ce sera que les partis qui soutiennent le nucléaire ne soient pas opposés, sinon il y aura des voix. Enfin, par exemple, le parti, comment on appelle ça, le Mélenchon, là, ils sont contre, c'est le seul parti qui reste où ils sont contre le nucléaire. Même le Parti Socialiste a complètement changé.
Il y a de toute manière, juste pour faire un commentaire sur l'actualité, il y a eu le deuxième sommet sur l'énergie nucléaire qui a été organisé par le président Macron, qui a reçu, je crois, une soixantaine, si je ne me trompe pas, de chefs d'État, avec comme feuille de route, il y avait aussi le directeur de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. La feuille de route, c'était tripler le parc nucléaire d'ici à 2050. Donc il y a cette vague derrière qui est importante. Donc je ne vois pas comment de l'agitation locale va pouvoir résister à cela.
Ce que tu as oublié de dire, c'est tout à fait vrai. Ce que je veux dire, c'est aussi la présidente von der Leyen, présidente de la Commission européenne. La Commission européenne était toujours anti-nucléaire, d'accord ? La preuve, ils ont nommé un ministre de l'énergie qui est un anti-nucléaire farouche, qui a dit que le nucléaire était bourgeois. Il est bourgeois, donc il fallait l'éliminer. Il est toujours président de la commission, enfin, le directeur de l'énergie. Et puis la vice-présidente, qui est Teresa, une espagnole qui était ministre, qui était farouchement anti-nucléaire. Ils sont toujours en poste.
Mais Ursula von der Leyen a dit que c'était une erreur stratégique d'avoir abandonné le nucléaire.
Exactement, tout à fait. Donc ils ont effectivement. Enfin, j'ai quand même quelques doutes là au niveau de la Commission européenne qu'il y ait un virage tel. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'ils nous ont plus qu'embêtés. Ils ont assassiné le nucléaire. Pendant 20 ans, d'accord ? Au point de vue financier, au point de vue des nominations des gens, enfin, tout, non. Alors, ils vont relancer. Bon, il faut faire attention. Là du coup, il faut faire attention à ce que... Enfin, elle était là, elle a dit, d'accord, on a fait une erreur.
Bon, effectivement, et espérons que pour une fois, Ursula von der Leyen va poursuivre dans la bonne voie.
Exactement.
Ces énergies de demain, et il n'y a pas que le nucléaire de quatrième génération, je sais que vous n'en êtes pas forcément spécialiste, mais par exemple, ITER, donc avec le plasma, est en train d'imaginer un nouveau type de réaction nucléaire, donc la fusion froide, si je ne m'abuse.
C'est pas tout à fait la fusion froide, excusez-moi, c'est la fusion, quoi. Oui, on y travaille depuis des dizaines d'années. Il y a des gigantesques projets mondiaux. Je vais vous dire mon sentiment, hein, c'est pas que... Bon, ceux qui proposent ça, c'est qu'ils sont anti-nucléaires, parce que ils proposent justement un truc, disons, une solution qui est loin d'être plus qu'un... Enfin, c'est pas faisable, quoi, pour l'instant. Donc, faut de la recherche vraiment considérable, et au plus tôt, les plus optimistes disent ce sera en 2100.
Voilà. Et c'est ça qui est absolument fascinant, c'est que d'un côté il y a cette recherche sur un nucléaire propre, enfin un mythe d'une fusion qui permettrait d'avoir tous les avantages nucléaires sans en avoir les inconvénients, mais justement avec les réacteurs de quatrième génération, on a des réacteurs qui utilisent le combustible usé, qui utilisent le déchet nucléaire, qui est transformé, autrement dit, est en train de faire en sorte justement de rentrer dans un cycle de nucléaire propre avec la quatrième génération.
Si vous voulez, en termes de fusion...
Pardon, le nucléaire a toujours été propre. Enfin, je ne sais pas ce que vous voulez dire par propre.
En tout cas, il n'y a pas de déchet...
Oui, tout à fait. Non, le déchet, bon, si vous parlez de déchets, j'écris aussi pas mal de choses là-dessus. Les déchets, c'est 5%. D'accord, du combustible usé. Quand vous sortez un combustible d'un réacteur nucléaire, c'est ça le déchet. Et bien vous en recyclez 95% chez nous et 5% c'est des déchets. Et encore des déchets. Sur ces 5%, il n'en reste plus que, disons, ça fait 50 tonnes, il n'en reste que 15% qui est radioactif au bout de quelques années. Autrement dit, comme je dis souvent, les déchets nucléaires, vous savez, ça tient dans un camion par an.
Ben, donc effectivement, et avec un peu de chance, on finira par les enterrer. Et revenons sur les EPR, donc ces réacteurs de quatrième génération. Non,
RNR.
Pardon, c'est pas les EPR,
RNR,
excusez-moi. On a mis en place cette technique de la surgénération. On a l'usine de La Hague qui permet de retraiter le déchet. Il y a ce projet donc qui va voir le jour en 2030. En combien de temps la France peut-elle rénover son parc nucléaire et obtenir une nouvelle énergie nucléaire?
Alors justement, il faut quand même pas mal de temps parce que il faut construire les réacteurs. Les réacteurs, en plus, ils sont construits un ou deux au maximum tous les ans parce que on peut pas. Enfin, là, c'est un peu long à expliquer, mais si vous voulez, pour fermer le cycle, il faut quand même un certain temps. Voilà, faut construire les usines et tout. Donc, en gros, j'analyse ça dans mon livre. Il faut à peu près au minimum 50, 60, 70 ans, vraiment en étant optimiste, pour arriver à un parc fait que des RNR. Bon, comme on est en... Bref, on arrive à la fin du siècle, en gros. Vraiment, on est en... Bon, vraiment...
Un demi-siècle pour rénover totalement le parc nucléaire français.
Voilà, exactement. Allez, on va dire comme ça. Un demi-siècle, au minimum, quoi.
Ouais. Mais ce demi-siècle, on peut commencer, donc voilà, en 2030, c'est-à-dire les premiers réacteurs sont capables de voir le jour en 2035, 37, 40.
Voilà, tout à fait.
2040,
quoi, les premiers.
Les premiers réacteurs sortiront de terre.
Le premier RNR va commencer à être construit en 2030. Il faut 10 ans, donc 2040, tout à fait, premier RNR. Il faut faire vite, hein, parce que ce qu'on a oublié de dire, le problème fondamental, c'est que l'uranium, il n'y en a plus pour longtemps. D'accord? Et s'il n'y a pas de RNR, le nucléaire s'arrête automatiquement.
Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait bien expliqué dans votre livre « Les réacteurs nucléaires surgénérateurs », donc que je remontre à l'écran. On a en fait une compétition mondiale pour l'accès à l'uranium.
Exactement. Et puis alors, le contexte géopolitique actuel n'améliore pas les choses, parce qu'il y a deux choses. Il y a l'uranium physiquement récupérable. Ça, on sait à peu près qu'il y en a pour jusqu'à la fin du siècle, mais pas plus. C'est-à-dire que d'ici la fin du siècle, il va y avoir certainement, mais ça, personne ne le conteste, l'AIEA, tout ça, des tensions terribles sur le carburant, c'est-à-dire l'uranium naturel. On a presque tout découvert, enfin, il y aura peut-être d'autres, mais bref, tous les scénarios, même des géologues, et tout, montrent qu'à la fin du siècle, il va y avoir des sacrés tirages au niveau de l'uranium. C'est-à-dire que, bon, si vous construisez un EPR en 2000, enfin, un réacteur pour 60 ans de fonctionnement, moi, je ne parie pas, je ne mets pas d'argent dedans au-delà de 2050, parce qu'il n'est pas sûr d'avoir assez d'essence. D'accord. Donc il faut absolument... Il y a une compétition, comme vous avez dit, entre la vitesse de développement des RNR, où je rappelle qu'à ce moment-là, on est 100% autonome, puis il n'y a plus besoin d'uranium naturel, d'accord. C'est ça le problème. Enfin, c'est ça l'avantage.
C'est ça l'intérêt, c'est qu'en fait, avec tout le combustible usé qu'on a déjà, on a pour des milliers d'années de fonctionnement de plusieurs dizaines de centrales. Jean-Luc Cerdan.
Une remarque, la charnière de 2100 a quand même été explicitement citée dans le communiqué de l'Élysée.
Oui, si vous regardez bien. J'avais mis ça dans ma lettre à Macron.
Donc, si vous voulez, ça a été, comme je le disais juste avant, un plaidoyer et des alertes qui ont été lancées par Dominique Grenet et ses pairs, mais c'est bien quelque chose maintenant qui est dans la conscience de l'exécutif et au plus haut niveau.
Je cite effectivement le communiqué de l'Élysée que vous pouvez retrouver sur elysée.fr, 5e conseil de politique nucléaire. Le conseil de politique nucléaire, le conseil de politique nucléaire considère que les enjeux à long terme d'approvisionnement en uranium justifient de lancer un tel programme permettant de se passer de l'importation d'uranium naturel à horizon 2100. Là, pour une fois, on est véritablement en train de parler de souveraineté.
Exactement. Et puis ça, ce que vous venez de dire, c'est exactement, encore une fois, j'insiste, ce que j'ai dit 15 jours avant dans ma lettre. D'accord.
Mais ça va être assez agréable de voir que votre lettre se retrouve dans le communiqué de l'Élysée.
J'étais très heureux, effectivement. Non, mais c'est vrai, hein, franchement, je ne m'attendais pas à une telle, un copier-coller, ils ont fait.
Ce copier-coller est en même temps donc, la validation donc, d'une démarche industrielle commencée il y a des dizaines d'années, ralentie et même arrêtée, assassinée, vous l'avez dit, pour des enjeux politiciens. Toutes les compétences existent encore en France.
Bien, oui, elles existent toujours, mais enfin, il a fallu les maintenir déjà. Ce qui n'a pas été facile Mais je crois que le message quand même essentiel, c'est ce qu'on vient de dire, à savoir que l'essence pour le nucléaire, il y en a pour jusqu'à la fin du siècle. Ou là, il n'y en aura plus. Je sais.
L'essence pour les réacteurs nucléaires de troisième génération.
Pardon, excusez-moi.
Mais pour ceux de quatrième, il y a...
Il n'y a plus besoin d'essence. Enfin, d'essence, de raffinerie ni rien, puisque, je vous dis, on fabrique artificiellement de l'essence avec ces réacteurs. Et cette essence-là sert à maintenir le nucléaire pour des milliers d'années. C'est vraiment un miracle. C'est un miracle. On sait faire. C'est pas des rêves de savants fous, c'est ça qu'il faut retenir, si vous voulez. En gros, j'insiste encore et je répète, de l'uranium, en gros, il y aura des tensions, mais c'est sûr, ça, c'est couru d'avance. Il y a des tensions d'ici la fin du siècle, donc il faut vraiment trouver des réacteurs où il n'y aura plus besoin d'uranium. Plus d'importation. Non seulement, on est déjà autonome à, disons, 95%, mais 5% du prix. On va rechercher l'uranium, on n'en a pas en France. On en a eu, on n'en a plus. Donc, il faut importer. Puis notamment, alors pas de la Russie, contrairement à ce que dit Greenpeace, mais on va le chercher dans d'autres pays, donc c'est assez diversifié, on est tranquille. Autrement dit, s'il y a une guerre au Moyen-Orient, aujourd'hui, on est tranquille, quoi. L'uranium, en plus, on a des stocks stratégiques, parce que comme l'uranium a un potentiel énergétique 1 million de fois supérieur à celui du pétrole, on a plusieurs années de réserve. Aujourd'hui, si demain on arrête tout l'uranium, les importations... on en a pour 3 ou 4 ans ou 5 ans de réserve. Ça, c'est facile. Mais 3 ou 4 ans, c'est juste... Le stock stratégique du gaz, c'est quelques mois. Le stock stratégique de l'uranium, c'est plusieurs années. Et ça, on l'a. Bon, d'accord, on l'a. Donc, c'est autrement dit, s'il y a une guerre demain qui nous empêche d'avoir de l'uranium, demain, on peut encore vivre 4 ou 5 ans. Mais au-delà, il n'y aura plus besoin de stratégique puisqu'il n'y a plus besoin d'uranium, si vous voulez.
Voilà. Et donc, c'est la véritable souveraineté énergétique. Merci beaucoup, Dominique Grenèche. Merci, Jean-Luc Cerdan.
Oui, un dernier mot pour vos auditeurs qui souhaitent se procurer ce livre. Je les invite à se connecter sur achetermonlivre.com. C'est un éditeur imprimeur. Et de taper dans la barre de recherche Dominique Grenèche ou Grenèche tout simplement. Et le livre apparaît. Merci
Parfait.
Beaucoup.
Merci beaucoup, Jean-Luc Cerdan. Merci beaucoup, Dominique Grenèche.
Ligne droite.
Et j'ai le plaisir de recevoir Pascal Pointu, qui est très en colère parce que, évidemment, les nouvelles lois électorales ont fait en sorte que les communes rurales n'ont pas pu véritablement s'exprimer dans ces élections municipales.
Oui, bonjour Richard, bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, je suis en colère doublement parce que on nous empêche, nous, dans 70% de la France, donc dans les 24 000 communes rurales, on nous empêche de panacher, de rayer des noms, de rajouter des noms. Et dans le même temps, on voit entre l'entre-deux tours, nous voyons des listes se monter alors que rien ne disait qu'il fallait les rassembler, puisque nous voyons quand même l'union de la honte entre le Parti socialiste et LFI. Donc c'est un arrow sur la démocratie, puisque on nous interdit, nous ruraux, de donner notre avis comme bon nous semble. Et d'un autre côté, on impose dans des villes, on impose des listes que les électeurs eux-mêmes se refusent d'avoir. Donc, à un moment où est la démocratie en France, que doit-on faire face à ce système quand on voit qu'on nous dit qu'il faut aller voter, mais que quand on veut voter, on nous empêche de voter comme bon nous semblerait. Donc, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Une élection municipale, ça coûte aux alentours 200 millions d'euros. Vous y rajoutez aux alentours de 130 millions de remboursements, de frais divers et ainsi de suite. Donc, ça nous fait environ 4 et 5 euros par habitant pour aller voter. Et je prends le cas extrêmement précis de ma commune. En 2014, pour les municipales, alors qu'il n'y avait qu'une seule liste, comme il n'y a eu qu'une seule liste dimanche dernier, il y avait 70% de participation. Je ne prends pas 2020, puisque 2020 a été faussé avec le Covid. Et ben, dimanche dernier, dans ma même commune, avec une seule liste, mais avec l'interdiction de panacher, avec l'interdiction de dire pour les ruraux qui c'est qu'ils pensaient qui était dans la même liste, qui était plus apte à remplir les fonctions, et ben dans cette même liste, on a eu 62% de participation. C'est-à-dire que nous avons eu 8% de moins d'électeurs sur une commune de 250 habitants avec un scrutin où il n'y a une seule liste et avec la nouveauté que les Parisiens nous ont inventée, celle du panachage, d'interdire le panachage. Donc on voit bien que les ruraux ne se sont pas mobilisés pour aller voter, ils en ont marre, ils en ont marre d'être pris pour des tartempions, hein, pour des tartuffes, on les prend pour n'importe quoi, on leur dit « il faut aller voter », mais lorsque l'on veut, nous, dans notre ruralité, lorsque l'on veut porter notre voix, lorsque l'on nous l'interdit, on nous dit « maintenant, circuler, il n'y a rien à voir ». Alors, quand je vois les accords de LFI et du PS, alors, je pense à ces vieux socialistes qui ont vécu sur l'histoire de Dreyfus, sur l'histoire de Léon Blum et ainsi de suite, et de voir l'antisémite Mélenchon parader sur tous les plateaux télé et insulter les Blancs, hein, faire du racisme de basse besogne, faire des propos qui incitent à la guerre civile. Quand on voit ces gens-là à l'heure actuelle, alors que M. Mélenchon, sa place, ça devrait être en prison. Ça ne devrait pas être sur un plateau télé, ça devrait être en prison depuis le temps qu'il multiplie les actes anti-républicains, qu'il multiplie les outrances. M. Mélenchon est invité sur les plateaux télé pour donner son avis, alors que M. Mélenchon devrait être à la gamelle en train de demander sa soupe dans une cellule d'une prison française, parce qu'il y a quand même, au bout d'un moment, des outrances qu'on ne peut pas accepter. L'antisémitisme est un délit, je le répète, et l'homophobie est un délit. Et quand je vois à l'heure actuelle les propos de M. Mélenchon, et quand on nous dit qu'il faut se joindre, que les vieux socialistes doivent se joindre avec ce type d'énergumène, moi ça me dégoûte. Alors je suis, la solution, je vais vous la proposer, cher Richard, il faut plus faire de scrutin à deux tours. À deux tours, il faut y arrêter, il faut faire un scrutin à un seul tour. Nous avons vu que les législatives ont été volées au Rassemblement national à cause de la Macronie qui a fait des retraits pour laisser élire un LFI à la place d'un RN quand les électeurs avaient placé le RN largement devant au premier tour. Donc à chaque fois, c'est farce et attrape. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, il faut y arrêter. On fait un scrutin à un seul tour, on économise au minimum 200 millions et puis apparemment, il nous faut de l'argent dans les caisses de l'État. Donc voilà déjà 200 millions d'économisés pour les Français, qui iront certainement bien plus dans le domaine de la santé ou de la sécurité que d'aller voir M. Mélenchon sur un plateau télé vomir sa haine.
Eh bien, ça paraît une excellente solution, Pascal Pointu. Il nous reste 2 minutes, profitons-en. Dans votre village, voilà, les élections ont eu lieu, juste à côté de vous. Et comment la population a-t-elle voté? Est-ce qu'on sent un tropisme de droite? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt les candidats véritablement sans étiquette et qui n'ont véritablement aucune opinion politique qui ont été élus?
Alors, je vais vous répondre. À l'heure actuelle, certains partis essayent de faire des parallèles entre les présidentielles et les municipales. C'est totalement stupide, puisque moi, dans ma commune, je vais vous démontrer très rapidement. Dans ma commune, il y a 250 habitants, il y a environ 200 votants. Hein. Les gens votent pour une liste sans étiquette, comme dans 70% des communes françaises, le maire élu est sans étiquette. Alors après, il peut avoir une sensibilité qui lui est personnelle, peu importe, mais les gens votent pour des sans-étiquette. On ne peut pas comparer une élection municipale à une élection législative ou présidentielle Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que lors des élections législatives dans ma petite commune rurale de 250 habitants, le RN arrive en tête au premier tour, que ça soit à la présidentielle ou que ça soit aux législatives, le RN arrive en tête au premier tour. Et là, on a élu une maire qui est sans sensibilité, qui est sans étiquette. On ne peut pas, dans des petites communes, on ne peut pas mettre une étiquette et dire que la droite ou la gauche a augmenté ou a baissé. C'est faux, puisque vous avez 24 000 communes qui élisent des maires sans étiquette. Et dans ces 24 000 communes, il est bien plus facile de gérer une commune en n'ayant aucune étiquette politique que de vouloir s'accrocher à une étiquette politique. Et ça, c'est fondamental pour les ruraux. Et c'est pour ça que interdire le panachage, ça fait beaucoup de mal, parce que si vous voulez, le panachage, c'était un peu aussi la guerre de se dire, tiens, celui-là, je crois qu'il vote à gauche, je crois qu'il vote à droite, donc je ne vais pas voter pour lui, je vais le rayer. Voilà, ça c'était un peu l'expression de la démocratie simple et pourtant vraie et sincère dans des petites communes comme la mienne et ainsi de suite. Donc là, à l'heure actuelle, moi je ne ferai aucun parallèle sur le rapport de force entre la droite et la gauche dans les élections municipales.
Eh bien, merci beaucoup Pascal Pointu et à la semaine prochaine.